journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La Grèce divisée par le référendum sur l'aide européenne, forte mobilisation des deux camps ce soir à Athènes, avec un avantage aux partisans du Premier ministre Alexis Tsipras qui appelle à voter non. Dans un instant, nous retrouverons notre envoyé spécial Annabelle Grolier. En France, la Cour de cassation ordonne l'inscription à l'état civil français des enfants nés d'une GPA à l'étranger. Les adversaires de la gestation pour autrui dénoncent un premier pas vers sa législation. Le dossier à suivre. D'Aurélie Kiffer. Uber lâche l'affaire face à la colère des taxis. La société américaine suspend son service Uberpop en France. Les explications de Catherine Dutu et le commentaire de notre invité, l'économiste Jean-Paul Bettebèze. Un peu plus de 24 heures du référendum grec, les sondages donnent le oui et le non au coude à coude. Le oui au plan d'aide européen a amorcé une spectaculaire remontée dans les intentions de vote ces derniers jours. Mais il y a encore plus de 10% d'indécis. Autant dire que tout pronostic pour le scrutin de dimanche serait particulièrement hasardeux. Ce soir, les deux camps tenaient meeting à Athènes. Selon les chiffres de la police, les partisans du oui, qui regroupent essentiellement l'opposition au gouvernement Syriza, ont rassemblé 20 000 personnes devant le stade de marbre de la capitale grecque. Le camp du non, lui, soudé autour de la gauche radicale, a attiré 25 000 personnes sur la place Syntagma, toujours selon la police. Annabelle Grolier, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Vous êtes sur cette fameuse place Syntagma pour ce meeting des partisans du non, marqué tout à l'heure par l'intervention du Premier ministre grec Alexis Tsipras.
Oui, un discours d'une quinzaine de minutes seulement, mais un discours clair et déterminé. C'est d'abord en rassembleur qu'Alexis Tsipras s'est présenté ce soir à la population. Quoi que vous votiez dimanche, ils ne nous diviseront pas. On a déjà gagné car ce sera le jour de la victoire de la démocratie. Alors bien sûr, Alexis Tsipras a une nouvelle fois appelé les Grecs à voter non pour la dignité et le respect. Et c'est en leader que le Premier ministre a parlé, demandant aux Grecs de voter selon leur cœur et de ne pas avoir peur. Un discours rythmé par la foule, très compact ce soir. Moi, je dirais plutôt 40 000 personnes sur la place Syntagma. Une foule qui scandait « Oichi, Oichi », non en grec. Un nom décliné en français, en espagnol et même en allemand. Car plutôt dans la soirée, des représentants de Podemos et Die Linke avaient pris la parole. Il y avait également des artistes venus soutenir le nom, comme l'un des acteurs les plus célèbres de Grèce, Yorgos Kimoulis. Les discours sont maintenant terminés, mais on danse et on chante, place Syntagma, près d'un concert gratuit en plein air, enfin presque un vendredi soir normal à Athènes.
Merci Annabelle Grolier, envoyée spéciale de France Culture en Grèce. J'ajoute que le Conseil d'État grec a rejeté aujourd'hui le recours de ceux qui voulaient empêcher la tenue du référendum. L'instance a estimé que ce référendum n'était pas contraire à la constitution de la Grèce. En France, la Cour de cassation offre une victoire importante aux partisans de la GPA, la gestation pour autrui. La Cour ordonne l'inscription à l'état civil des enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger, et cela au nom du droit européen. Décision aussitôt dénoncée par les adversaires de la GPA, qui y voient un premier pas vers sa légalisation en France. Une chose est sûre, Aurélie Kiffer, cet arrêt de la Cour de cassation va faire jurisprudence.
Oui, une GPA ne justifie pas à elle seule le refus de transcrire à l'état civil l'acte de naissance étranger d'un enfant ayant un parent français. Voilà ce que dit aujourd'hui la Cour de cassation. Elle, qui mettait en avant le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, a tenu compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La fraude, en l'occurrence le recours à la GPA, ne peut pas faire échec à la transcription de l'acte de naissance. Pour Maître Spinozzi, avocat du défenseur des droits, c'est une grande victoire.
Il appartient maintenant aux juridictions de tirer les conséquences de cette décision de la Cour de cassation et d'arrêter de bloquer les transcriptions qui sont en attente devant le tribunal de grande instance de Nantes. Aujourd'hui, il faut transcrire les actes d'état civil tels qu'ils sont présentés dans les actes étrangers. Le principe tel qu'il a été posé par la Cour de cassation, c'est celui de la transcription. L'exception sera la volonté du parquet d'essayer de bloquer cette transcription et peut-être qu'il y aura de nouveaux procès qui sont à attendre dans cette hypothèse.
Il faut tout de même préciser que la Cour s'est penchée sur des cas particuliers. Les deux enfants dont il est question sont nés en Russie et sur l'état civil russe, ce sont les pères biologiques et les mères porteuses qui sont mentionnés comme parents. Or, le plus souvent, ce sont les parents d'intention qui apparaissent sur l'état civil étranger. Que faut-il faire quand il n'existe pas de lien biologique avec l'enfant? La Cour de cassation s'est bien gardée de se prononcer sur ce cas de figure qui ne lui était pas soumis. L'arrêt rendu cet après-midi laisse donc beaucoup de questions en suspens. Mais peu importe, le mal est fait, estiment les représentants de la Manif pour tous, mouvement qui a combattu débattu le mariage gay et l'adoption par des couples homosexuels. Pour l'avocate Adeline Le Gouvello, on a validé une avancée de plus vers la reconnaissance des mères porteuses en France.
On prend acte que la mère, qui est bien la mère, a abandonné son enfant contre de l'argent à un homme. La loi française est gravement bafouée et les conventions internationales, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant, qui garantit à tout enfant de connaître son père et sa mère et d'être éduqué par eux. Donc là, les juges français viennent de violer délibérément toutes ces dispositions, viennent de violer le code civil, le principe de la fraude qui corrompt tout. Il est donc vraiment très urgent que le législateur intervienne et mette un coup d'arrêt aux divagations jurisprudentielles.
Un avis partagé par une quarantaine de députés socialistes. Cette semaine, ils ont fait part de leur inquiétude à l'idée d'une reconnaissance de la GPA et ils demandent son interdiction explicite dans la loi au nom de l'indisponibilité du corps humain.
Aurélie Kiefer, merci. Manuel Valls prend donc acte de cet arrêt de la Cour de cassation. Mais pour le Premier ministre, cette décision ne remet pas en cause l'essentiel. Le recours à la GPA est un interdit absolu en France, affirme-t-il. Manuel Valls, qui vient d'enregistrer un succès sur un autre dossier, le conflit des taxis. Uber fait marche arrière. La société américaine de VTC suspend son service Uber Pop sur le sol français. C'est ce que réclamaient les milliers de chauffeurs de taxi qui avaient violemment manifesté la semaine dernière. Après avoir un peu pour la forme fustigé ces violences, le gouvernement avait pris fait et cause pour les taxis face à Uber. Alors Catherine Dutu, faut-il y voir la raison du revirement de la société américaine ?
Alors, dans un entretien publié dans Le Monde cet après-midi, Thibaut Saint-Phal, le directeur général d'Uber France, explique que cette suspension est en premier lieu destinée à préserver la sécurité des chauffeurs Uber, victimes d'agressions ces dernières semaines à Lyon et Nice notamment, violemment prises à partie aussi à Paris lors de la manifestation de chauffeurs de taxi réglementés, c'était le 25 juin dernier. Seconde raison avancée par Thibaut Saint-Phal, la volonté d'apaiser, de dialoguer avec les pouvoirs publics, et cela c'est un revirement complet par rapport à la semaine dernière. Après l'annonce par le ministre de l'Intérieur d'un arrêté interdisant Uber Pop à Paris, le même Thibaut Saint-Phal disait, je cite, « C'est un arrêté préfectoral, on va le contester, on verra ce que donne le retour. Pour l'instant, ça ne change rien, Uber Pop peut continuer. » Aujourd'hui donc, pourquoi Thibaut Saint-Phal veut-il montrer qu'il prend ses responsabilités ? Pour une troisième raison, peut-être, lundi, Thibaut Saint-Phal, directeur général d'Uber France, et Pierre-Dimitri Gorkoti, directeur d'Uber pour l'Europe de l'Ouest, ont été placés en garde à vue, renvoyé en correctionnel le 30 septembre prochain. Ils comparaîtront notamment pour pratiques commerciales trompeuses, complicité d'exercice illégal de la profession de taxi. C'est la loi Thévenoud en septembre dernier qui a durci l'encadrement des véhicules de transport avec chauffeur. Suspension donc de l'application Uber Pop ce soir dès 20h. Mais la maison mère américaine n'a pas dit son dernier mot. Elle a obtenu la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à Uber Pop, décision attendue en septembre prochain.
Et en attendant cette décision, les 10 000 conducteurs Uber Pop pourront se reconvertir en chauffeurs VTC, activité parfaitement autorisée en France, moyennant entre autres 250 heures de formation et une licence délivrée par les autorités. Pour aller plus loin sur ce dossier Uber, un invité dans ce journal, l'économiste Jean-Paul Bettebaise du Cercle des économistes. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Paul, le Bettebaise, Uber renonce pour l'instant à son service Uber Pop. Est-ce que ça veut dire que les taxis finalement ont gagné leur bras de fer ?
Non, je crois pas. C'est-à-dire que Uber Pop était une façon, en réalité, d'aider une partie de la population qui a des problèmes d'argent hein, et qui essaie de se trouver des compléments de revenus et qui concurrence très nettement et très violemment la population des taxis qui est déjà affecté et affaibli par Uber dans quelque sorte classique. Et donc on est dans une situation où d'une certaine manière, trop c'était trop. Donc il y a un arrêt dans le processus, mais je ne pense pas que ce soit fini.
Est-ce que vous comprenez l'attitude du gouvernement qui a toujours soutenu les taxis face à Uber ?
C'est un peu politique peut-être, c'est un peu également social. Face à une économie qui est en train de changer très très vite et radicalement, et qui change en quelque sorte les règles, les habitudes et les façons de fonctionner. Imaginez deux secondes que vous ayez quelque chose de cette nature et qui conteste d'une certaine manière les pharmaciens, qui conteste très rapidement les banques, et vous auriez à ce moment-là des inquiétudes en termes d'emploi, en termes de tension et d'une certaine manière de réaction parfois violente de personnes qui se trouvent appauvries, sinon très appauvries, comme sont aujourd'hui les taxis. Ce qui s'est passé d'une certaine manière, c'est une réaction économique et politique face à un changement social qui est lié à une technologie.
Justement, Jean-Paul Bettebez, on parle d'ubérisation de la société avec le développement de l'économie du partage. C'est donc une tendance lourde, selon vous ?
Oui, nous sommes dans une économie du partage. Mais cette économie du partage, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une économie où la propriété peut se partager. Ce n'est pas une économie de la fin de la propriété. C'est une économie dans laquelle vous êtes propriétaire de votre appartement et vous pouvez, d'une certaine manière, me le passer. Simplement, quand vous regardez la façon dont ça fonctionne, c'est en même temps, je vais vous prêter, moyennant finance, mon appartement, mais je veux savoir qui vous êtes, je veux vous connaître. Et si c'est un appartement, je vais vous voir sur Skype, je vais essayer de savoir qui vous êtes. Si vous êtes sur Blablacar, je veux également connaître en quelque sorte votre note en tant que voyageur et votre note en tant que conducteur. Donc c'est une économie de l'information. C'est ça qui est en train de se passer. L'économie du partage est une économie du traitement de l'information appliquée à la propriété. Et c'est extrêmement important à développer et à encadrer avec des risques à la fois sociaux pour ceux qui ne peuvent pas s'adapter et des risques fiscaux évidemment parce qu'il y a toute une partie de cette activité qui peut être au black.
Justement, est-ce que l'on peut dire que l'économie du partage est une économie créatrice d'emplois ?
Elle est pour le moment une économie qui fabrique des compléments de revenus, en particulier ce que faisait Uber Pop, qui fait de l'emploi pour ce qui est les gens d'Uber, mais qui d'une certaine manière attaque ou réduit les valeurs des plaques des taxis. Vous voyez bien que pour le moment, le jeu, qu'est-ce qu'il gagne dans l'économie, n'est pas encore très très net. Ce qui va se passer derrière, si vous voulez, c'est que l'économie et la société doivent bouger vers une économie de la communication et de l'information et du partage de la communication et de l'information. C'est ça qui fera la différence et c'est ça ce qui nous rendra plus efficaces. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est que nous avons une économie en concurrence mondiale par les coûts salariaux. Et aujourd'hui, on a la possibilité de répondre, non pas par les coûts salariaux, mais par les avantages d'information. Si je peux répondre à votre demande plus vite, eh bien, ce sera mieux que quelqu'un qui serait éventuellement moins cher, mais qui réagirait plus en retard. Donc aujourd'hui, c'est vitesse contre coût salariaux.
Et au bout du compte, le consommateur s'y retrouve ?
Dans cette situation-là, si c'est bien fait, oui. Et bien entendu, pour les taxis par exemple, ça voudra dire également des investissements nouveaux en géolocalisation. Ça veut dire également que cette nouvelle culture de la communication se développe. Et si à ce moment-là, nous rentrons dans une économie plus communicante, à ce moment-là, nous sommes globalement gagnants, mais vous voyez bien à quel point c'est pas évident, c'est pas facile, et qu'aujourd'hui, il y a des gens inquiets parce que d'une certaine manière, ils se demandent qu'est-ce qui va se faire. La réponse, en fait, c'est comprendre, expliquer, se former, investir.
Jean-Paul Bettebez du Cercle des économistes, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Vincent Bolloré n'a pas du tout l'intention de supprimer les guignols de l'info. Le nouveau patron de Vivendi, la maison mère de Canal+, a tenté de mettre un terme à la polémique aujourd'hui. Les guignols font partie du patrimoine de Canal. Il est hors de question de se priver de cet atout, affirme Bolloré. En revanche, le format et l'horaire du programme restent à définir. Plusieurs politiques, surtout à gauche, s'étaient émus de la possible suppression des guignols. En tout cas, cette affaire a déjà, semble-t-il, fait une première victime. Rodolphe Belmer, le directeur général de Canal+, a été remercié. Il sera remplacé par son adjoint Maxime Saada. Un mot de la météo demain avec la canicule qui persiste sur 51 départements placés en vigilance orange sur la moitié est du pays. Sur l'ouest, les températures vont baisser dans l'après-midi à la faveur d'une petite dégradation pluvio-orageuse. Partout ailleurs, le thermomètre dépassera les 33 degrés et pourra même atteindre les 40 degrés sur la plaine d'Alsace. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Meta Chiteya.